Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour frère Jean-Gabriel.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes l'auteur de ce petit ouvrage que nous découvrons depuis quelques jours par aux éditions du Carmel, puisque vous êtes prieur du Carmel de Toulouse, La petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus, spécialiste aussi puisque vous prêchez aussi sur Thérèse de Lisieux, donc grand connaisseur. Je vous propose dans ces quelques minutes et ce quatrième épisode un extrait de votre livre, page 151. Et là on découvre, je dirais, cet espace aussi qui ouvre ce cœur qui brûle de Thérèse, ce cœur de missionnaire, ce cœur qui brûle, ce cœur de la charité. Thérèse elle-même dit, donc écoutons Thérèse. Ah, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Mais surtout, j'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. Personne n'a dit à Jésus, n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier afin qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il me semble que ce flambeau représente la charité qui doit éclairer, réjouir non seulement ceux qui sont les plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison sans accepter personne. Ça, c'est du Thérèse de Lisieux, c'est fort, c'est thérésien, c'est le cœur aussi
de l'évangile en l'évangile. Même temps. Si vous voulez, quand Jésus nous dit en Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez votre ami, vous haïrez votre ennemi, mais pour moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, si vous voulez, là, vraiment, on se dit qu'on est au cœur de l'évangile, mais qu'on ne peut absolument que ce commandement, ce conseil ou commandement de Jésus, ce commandement de l'amour, qui va jusqu'à l'amour des ennemis, est impossible sans être uni à Jésus. Donc Thérèse a compris, et elle s'unit à Jésus, si vous voulez, comme la petite limaille d'aimant, limaille de fer, pardon, qui s'aimante à l'aimant. Pardon, la limaille de fer, c'est une image qu'elle prend aussi, la limaille de fer qui s'unit à l'aimant, et qui devient aimant elle-même. Voyez, j'aime bien l'image de l'aimant parce que aimant, c'est celui qui aime. Voyez, donc c'est pas mal. L'aimant suprême, c'est Jésus, mais il nous unit à lui. Par le pouvoir de l'aimantation, si je peux me permettre, voyez, l'aimantation, c'est exactement l'image qu'elle prend de la petite limaille de fer qui se fait aimanter par l'aimant et qui devient aimant elle-même. Donc, elle est unie à Jésus et donc elle veut pratiquer la charité comme Jésus le demande dans l'évangile. C'est-à-dire sans accepter personne. Et effectivement, notamment dans la communauté de Lisieux où elle est, vous savez, c'est une communauté très nombreuse, mais avec faite de personnalités venant de milieux très différents. Il y avait la pauvre paysanne, il y avait une bourgeoise là de Caen, il y avait, vous voyez, tout était mêlé, mais c'est très très difficile. On n'imagine pas ce que c'est que la vie en communauté, tant qu'on ne l'a pas vécu. Et Thérèse tombe, notamment, elle nous le raconte dans son manuscrit C, elle est donc avec une sœur qui a, dit Thérèse, le défaut de lui déplaire en tout. Donc c'est une antipathie naturelle, profonde. C'est l'antipathie naturelle, mais c'est naturel. Donc c'est pas grave. Je veux dire, on peut avoir des antipathies naturelles, et on n'y peut rien. Telle sympathie et telle antipathie, on n'y peut rien. Mais ce qui est incroyable, c'est que Thérèse comprend qu'il ne faut pas s'arrêter à cette antipathie naturelle, qui n'est que naturel. Et au contraire, il faut en faire quelque chose pour le Seigneur. Et donc, elle va en faire une sympathie surnaturelle, si vous voulez, une amitié spirituelle ou une amitié surnaturelle, en dépassant justement ce qui pour elle la repousserait loin de cette sœur Thérèse de Saint-Augustin, puisqu'on sait que c'est elle maintenant, de son vivant elle l'a pas su. Et il y a, si vous voulez, une une prise de conscience que dans ce sans accepter personne, hein, c'est absolument incroyable, hein, justement, que, et d'ailleurs elle allait vers les sœurs qui lui, au point que les sœurs de ses sœurs de sang, ses propres sœurs lui reprochent de ne pas être assez souvent avec elle. Ben oui, parce qu'elle a justement, elle voulait pas profiter que ses sœurs de sang, hein, favorisent justement cette un clan finalement qui aurait été le clan des sœurs Martin,
des filles Martin,
vous voyez, ça aurait été ça, hein. Alors elle veut que véritablement, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, sa patronne, que toutes les sœurs s'aiment. Et donc il n'y ait pas de clan, en tout cas que ça ne se voit pas, et qu'il y ait justement une forme de, voyez, de, donc elle va lutter contre sa nature, contre ce sentiment naturel, par la charité, en voyant dans la sœur la présence de Jésus.
Oui, et là, je me permets cette parole aussi de Thérèse, toujours sur la charité, toujours dans votre livre, page 153, qui résume très bien, quand elle dit « Oui, je le sens lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi, plus je suis unie à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs ».
Ouais.
Et ouais. Ça dit bien aussi, voilà, cette union.
Exactement.
Elle ne lâche pas la main de Jésus. Ce regard de Thérèse est toujours porté vers Jésus.
Absolument.
Elle est unie à lui. Et c'est ça le secret,
absolument,
je dirais, de cette charité presque parfaite, cette charité,
sûr,
de l'évangile.
La charité, si vous voulez, on croit toujours, ah, il est charitable, mais comme disait Thérèse, à qui on disait à la fin de sa vie, qu'est-ce que vous êtes patiente, elle disait, je n'ai jamais eu aucun sou de patience, c'est pas la mienne, c'est celle de Jésus. Donc combien on peut dire, effectivement, pour la charité, c'est la charité du Christ. Toutes les vertus, si vous voulez, nous sont données par la foi, l'espérance et la charité, les vertus qu'on appelle cardinales, nous sont aussi données si on, évidemment, si on y, avec une petite collaboration de notre part, évidemment, parce que il y va aussi de notre liberté, et c'est le travail des vertus, bien entendu, mais toutes, et surtout la charité, qui est la vertu suprême, souveraine, hein, comme le dit si bien saint Paul 1 Corinthiens 13, hein, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc si vous voulez, la charité, c'est le cœur même, elle dira, l'amour est le cœur de l'Église, c'est ça, la charité est le cœur de l'Église, c'est le cœur qui fait battre tous les membres, hein, tous les membres de l'Église. Et s'il n'y a plus ce cœur, eh ben les membres ne vivront plus, enfin ne seront plus actifs. Donc elle dit, et ce cœur de l'Église, effectivement, c'est le cœur brûlant d'amour du Christ et de l'Église, hein, et de l'Église pour le Christ, hein, et qui est infusé justement par le Christ. La charité est un don, bien entendu, hein, c'est un don, c'est une vertu théologale qui est donnée par Dieu, et justement, et qui nous permet véritablement d'aimer comme Dieu aime. C'est-à-dire jusqu'à aimer, comme on le voit pour la passion de Jésus, ceux qui le font souffrir, ceux qui le, hein, Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non seulement il a pardonné, mais en plus il a voulu excuser. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
C'est
vraiment incroyable.
Vous permettez, mais sur cet acte, au fond, suprême, où tout chrétien, tout baptisé est appelé à vivre dans sa, ouais, vie, des actes de charité, de cette charité, et Thérèse nous le rappelle par cette union, on en est où aujourd'hui dans ce cœur de l'Église, cette charité au cœur même de l'Église? Il y aurait une carence, faudrait-il relire peut-être l'évangile et puis au fond ce génie de Thérèse, hein, qui,
absolument,
elle était maîtresse des novices, hein, et qui a cette fécondité aujourd'hui.
Et je dirais que c'est urgent de le découvrir ou de le redécouvrir, enfin en tout cas, voilà, j'espère qu'on l'a pas totalement abandonné quand même, hein, mais c'est vrai qu'il faut absolument se réveiller en se disant, est-ce que véritablement je vis la charité au cœur de ma vie, enfin, est-ce que c'est la charité,
nous interroger.
La charité du Christ, encore une fois.
Du Christ,
parce,
hein,
que je crois,
hein,
être à la,
à
ma charité. Où, vous voyez,
c'est une charité unie au Christ.
Unie,
hein,
au Christ.
Hein.
Bah, sans être unie au Christ, ce n'est pas de la charité.
Permettez-moi, mais ça interroge, ça pose la question, où j'en suis et quels sont les moyens que je prends pour rester unie au Christ.
Absolument.
Donc,
est-ce que je prie,
union,
est-ce qu'il y a les sacrements, est-ce qu'il y a... Voilà. Hein, parce que là, vous voyez, on peut mettre ça à toutes les sources. Hein, l'amour, voilà. Mais en même temps, l'amour de charité. Oui,
donc les œuvres ne suffisent pas, frère Jean-Gabriel?
Les œuvres ne doivent être que les œuvres ne sont que l'expression d'une foi et d'un amour que j'ai reçu. Les œuvres ne sont pas un préalable, elles sont une suite d'une fécondité spirituelle. Voyez, et donc qui dit fécondité dit union, dit réceptivité à un don qui ne m'appartient pas. Vous voyez, c'est pas un dû, l'amour de Dieu, c'est une grâce, hein, mais une grâce dont je bénéficie et que je fais fructifier. Hein. D'ailleurs, Thérèse se compare à un petit grain de blé, où est-ce que c'est, je l'ai vu tout à l'heure en feuilletant, mon livre, bon, que je connais pour par cœur,
oui,
donc
oui, je suis obligée aussi,
de,
hein,
où elle dit, voilà, je me sens si misérable. C'est dans les derniers entretiens, donc elle va bientôt mourir, c'est en août encore 97. Je me sens si misérable. Ma confiance n'est pas diminuée, au contraire, et le mot misérable n'est pas juste, car je suis riche de tous les trésors divin. Mais c'est justement pour cela que je m'humilie davantage. Quand je pense à toutes les grâces que le bon Dieu m'a faites, je me retiens pour ne pas verser continuellement des larmes de reconnaissance. C'est extraordinaire, vous voyez? Tout est là. Et donc, la charité fraternelle de Thérèse n'est que l'expression de la charité du Christ pour elle.
Et de cette union parfaite avec le Christ. Frère Jean-Gabriel Rouergue, vous êtes l'auteur aussi de ce livre aux éditions du Carmel, La petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vous propose de vous retrouver pour un dernier volet qui va clôturer ces quelques jours que nous avons eus avec vous et puis ce docteur de l'Église nommé en 1997. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, et merci.